Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains. Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit à des disciples de Jésus au premier siècle qui habitent à Rome. Donc c'est l'épître aux Romains, chapitre 8, et on va lire dans quelques instants versets 18 jusqu'à 27. Donc Romains chapitre 8, versets 18 à 27. J'ai mis pour titre à cette prédication « Où nous conduit 2018 ?» Alors, on a vécu des choses en 2017, on se demande un petit peu toujours au début d'une année qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui est en avant de nous. Et du coup, on a commencé déjà en fait à réfléchir à ça dans cette première partie du culte. Où est-ce que sont nos vrais appuis? Où sont nos vraies assurances? 2017, ça a été marqué par des moments difficiles pour les uns les autres, et aussi des joies in extremis. Hein, on pensait que ce serait une joie de 2018, mais c'était encore une joie de 2017, le 25 décembre, avec l'arrivée de Félicie chez la famille Leplé. Il y avait des naissances, il y avait des deuils, il y avait des choses achevées dans les vies des uns des autres et des choses inachevées qui laissent un goût amer pour d'autres. Il y avait des relations vraiment exaltantes, satisfaisantes pour les uns et pour d'autres, des frustrations, des douleurs, des souffrances dans la relation. On sait ce qu'a été 2017 et on se demande est-ce que 2018 va être la même chose? Et je vous invite alors à lire un passage qui est capable de nous assurer, de nous encourager, de nous donner une perspective, non seulement pour 2018, mais pour toute notre vie. Et ça se trouve dans Romains 8, à partir du verset 18. Vous lisez avec moi? J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que des mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. J'aimerais développer trois parties, trois idées avec vous à partir de ce passage. D'abord, est-ce que nous sommes prêts ou prêtes à souffrir comme héritiers de Christ? La promesse est d'hériter avec Christ, mais à condition, ou c'est pas à condition, mais il y aura aussi des souffrances qui vont accompagner cet héritage avant de le recevoir. Et alors, à l'heure du bilan, qu'est-ce qui a du poids? On va réfléchir. Et les transitions d'année, c'est toujours des bons moments pour réfléchir. Qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie? Et j'aimerais vous laisser après avec trois encouragements. La liberté, l'adoption et le Saint-Esprit, voilà ce que nous avons déjà reçu maintenant. Voyez avec moi au verset 18, l'apôtre Paul, il dit « J'estime en effet que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Il y a un mot ici dans l'original grec qui apparaît pas forcément, mais qui fait clairement une transition avec ce qui est précédemment dans le texte. Donc on cherche, qu'est-ce qu'il y a dans le contexte? Comment est-ce que Paul peut dire qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances maintenant et la gloire qui va être révélée en nous plus tard? En fait, je crois qu'il ne faut pas remonter trop loin, on remonte juste au verset 17. Et Paul, au verset 17, il dit que si nous sommes enfants, donc ayant été adoptés par Dieu, nous sommes aussi héritiers. C'est normal, on a droit à tous les privilèges de la famille. Notre papa prend soin de nous. Et donc, on a à notre disposition toutes les richesses, tous les biens que notre père dispose pour nous. Et il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Christ, avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Et c'est un peu ce qui va développer donc dans le passage 18 à 27 qu'on a lu ensemble. D'une part, les souffrances qui peuvent encore nous attrister, mais aussi la gloire qui attend ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Je pense que pour comprendre ce passage dans toute son ampleur, il faut d'abord nous souvenir de la manière dont Dieu nous a appelés dans son plan. Est-ce que par nature, le fait de naître sur terre, le fait d'arriver sur terre, on est héritier de Christ, héritier de Dieu? Est-ce que par nature, nous sommes des enfants de Dieu? Non. En fait, bien au contraire. Depuis Genèse 3, malheureusement, c'est le grand drame de toute l'humanité. Chaque enfant qui naît, chaque personne qui vit sur cette terre n'est pas enfant de Dieu, n'est plus enfant de Dieu, mais enfant de la rébellion à la suite d'Adam et Ève. Nous étions, nous aussi, par nature, comme tous les êtres humains, sous le coup de la colère de Dieu, car nous ne voulions pas reconnaître le seul et véritable Seigneur, le Créateur de tout ce qui existe, celui qui nous avait donné la vie. Dans notre rébellion, Dieu nous avait livrés à nos propres désirs mauvais, et nous méritions la mort. Nous étions semblables, dit l'apôtre Paul en Romains 3, 23, peu importe qu'on soit de nos origines, peu importe qu'on soit homme ou femme, peu importe qu'on soit 60 ans ou 30 ans ou 1 an, tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Déconnectés de Dieu, déconnectés du Créateur. Mais voilà la bonne nouvelle qui vient renverser, bouleverser cet état de fait. Cette bonne nouvelle qui a résonné un jour dans notre cœur par l'Esprit de Dieu. Écoutez-la encore. C'est gratuitement. Gratuitement, c'est une grâce, c'est un cadeau que chaque homme, chaque femme peut être déclaré juste et voir sa dette effacée au moyen de l'acte posé à la croix par Jésus-Christ pour nous, en notre faveur. Il n'a pas dû payer pour lui, pour ses propres fautes. Il était innocent, mais il a accepté de le faire pour des pécheurs, pour que sa justice parfaite, son innocence parfaite soit mise à notre compte et que tous nos péchés soient déversés sur lui au moment où il était cloué à la croix. Lui, Jésus-Christ, le juste, a pris la punition qui nous revenait. Il a détourné la colère de Dieu aussi loin que l'Orient l'est de l'Occident. Il n'y a plus de crainte maintenant de la voir revenir comme un boomerang. Pour ceux qui croient, qui mettent leur foi dans la mort substitutive de Christ, il y a un vrai espoir. Dieu est à nouveau favorable. C'est Romains au chapitre 6 au verset 23 qui dit ceci: car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ceux qui répondent à cette bonne nouvelle, qui se détournent de leur ancienne attitude hostile à Dieu, qui décident de faire demi-tour dans leur style de vie, qui mettent leur confiance maintenant dans la parole de Dieu, ceux-là sont arrachés à leur ancienne condition pécheresse pour entrer dans une vie nouvelle avec Jésus. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Romains chapitre 5, verset 1. « Étant donc déclarés justes ou justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est une faveur imméritée, accordée gracieusement par Dieu. Est-ce que tu es en paix avec Dieu ce matin? Est-ce le cas pour toi? Est-ce que tu as entendu cette bonne nouvelle? Est-ce que tu désires vivre de nouveau cette relation avec le Créateur? Alors, si c'est pas le cas, ne tarde pas. Aujourd'hui, c'est un jour de salut. Aujourd'hui, c'est un jour de patience pour Dieu. Aujourd'hui, tu peux faire appel à Jésus et voir tes péchés, tes fautes, ton passé complètement revisité par la grâce de Dieu. Et vous dites, mais c'est trop beau pour être vrai. Mais en fait, l'apôtre Paul, il continue et il nous dit, il nous assure que Dieu n'a pas juste dit des paroles comme ça et peut-être ça va arriver, peut-être pas. Dieu a scellé ça. Il y a l'acte que Jésus-Christ a posé, un acte historique attesté, sûr et certain. Il y a bien eu un homme, Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu, Dieu en personne, qui est mort sur la croix. Mais aussi, pour nous qui sommes loin maintenant de cette date-là, 2000 ans plus tard, Dieu a promis qu'il mettrait en chacun et en chacune qui croit le Saint-Esprit comme un sceau, comme une certitude, comme une assurance, comme une signature, un tampon, si vous voulez, officiel dans le cœur des croyants. Et il a répandu dans nos cœurs son esprit qui nous délivre du coup de la maîtrise du péché. Oui, en tant que chrétien, il nous arrive encore de pécher, de faire ce qui déplaît à Dieu, de suivre nos propres voies plutôt que d'écouter ce que Dieu nous dit. Mais grâce à l'Esprit de Dieu en nous, nous ne sommes plus maîtrisés par le pouvoir du péché. On n'est plus obligés de lui obéir. On n'est plus esclaves du péché. C'est ce que Paul a parlé dans le passage de Romains 8. Il y a une libération pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Et donc on est appelé à faire mourir le péché. On est appelé à dire non au péché. Et on peut dire non. Et on peut vivre une vie totalement nouvelle maintenant. C'était impossible pour nous avant. On n'en avait même pas l'idée. Nous étions esclaves d'un maître cruel, mais Jésus nous a libérés. Le Seigneur nous a acquis pour que nous soyons à son service. Et ce maître plein d'amour veut nous conduire dans l'obéissance. Et l'obéissance est liée à la confiance. N'est-ce pas? Quelqu'un te demande quelque chose, si tu as confiance dans cette personne, si tu sais que cette personne est bonne envers toi, tout ce qu'elle va te demander, tu es prêt à le faire. C'est la même chose avec ce Seigneur plein d'amour. Et donc, au chapitre 8, donc, l'apôtre Paul écrit au verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont alors fils ou filles de Dieu. » Plus des esclaves, mais des enfants, libres dans la maison d'un père plein de bonté, plein d'amour. Non pas des fils ou des filles naturelles, mais des fils et des filles adoptés, retirés de l'orphelinat, retirés de la misère, si vous voulez, pour être dans cette famille maintenant que Dieu rassemble. C'est pourquoi nous osons nous adresser à Dieu en 2017, comme en 2018, en disant « Papa, Père !» Et peu importe quel était notre vécu avec notre Père terrestre, nous savons tous au fond de nous-mêmes qu'un Père, ça doit être quelqu'un qui normalement prend soin, quelqu'un qui protège, quelqu'un qui veut le bien de ses enfants. Et on peut comprendre que alors en Jésus, on n'a pas besoin de redouter de dire « Papa, Père » à Dieu, notre Créateur. Vous savez, c'est incroyable, n'est-ce pas, de pouvoir, nous, alors qu'on se regarde de là dans le blanc des yeux, on voit notre faiblesse, on sait bien qu'est-ce qui fait notre vie. Et nous, qui sommes des petites créatures dans un univers immense, on peut s'adresser au Créateur et lui dire « Papa ». On peut lui dire « Père ». Est-ce que t'es pas surpris ce matin? Est-ce que t'es pas étonné? Est-ce que t'es pas encouragé par juste cette pensée? Mais il y a même quelque chose d'encore plus important. C'est que tu pourrais crier « Papa !» Juste entendre le silence, le vide, personne qui te répond. Et la Bible affirme que, en fait, c'est encore plus incroyable que tout. Nous entendons en nous-mêmes une voix rassurante qui répond. Oui, mon enfant. Oui, mon fils. Oui, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Et écoute-moi. Et on peut entrer en relation avec Dieu. Émerveillé, on peut entendre Dieu nous dire « Mon enfant ». Vous savez, c'est facile pour tout le monde de dire « Je connais un tel ou une telle, je sais pas, je connais Manu. Je connais Manu Macron. Facile à dire. Tout le monde peut faire ça. Allez, tu me charries, quoi. Quand même, t'as déjà été à l'Élysée, toi? Non, je t'assure, c'est vrai, on est des vrais amis. J'ai pris l'apéro avec lui, on a fait des vacances ensemble et tout. Non, arrête, tu me blagues, quoi. C'est que serait quoi la vraie preuve de ça? Ce serait que, par exemple, je sorte mon téléphone, je compose un numéro, et puis au bout de quelques instants, vous entendiez « Allô Manu, écoute, je te passe une personne, elle croit pas qu'on est amis. » Et là, vous auriez Manu Macron qui dirait directement « Ouais, ouais, Marc Etienne, je le connais. » Ça, c'est encore plus merveilleux, n'est-ce pas? C'est facile de dire « Je connais Dieu », mais c'est encore plus extraordinaire d'entendre Dieu qui dit « Je te connais. Je sais où tu es. Je te vois. Je prends soin de toi. » Est-ce que vous voyez la dynamique, le plan de Dieu dans lequel nous sommes appelés à entrer? D'ennemi à fils ou fille de Dieu. De personnes qui se souillaient elles-mêmes par des passions opposées à Dieu, on peut devenir des personnes qui vont hériter, au même titre que Christ, de tous les biens que Dieu a en réserve. C'est ce que le passage du verset 17 dit. Il continue. « Si toutefois nous souffrons avec Christ, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Puisque nous sommes à ce point appelés à être conformes à l'image du Fils bien-aimé de Dieu, puisqu'il s'agit là de notre nouvelle identité, nous devons nous attendre à vivre une vie comparable, non pas en tout point, il était bien le Fils incarné de Dieu sur terre, et à ce titre-là, il est différent de nous, mais en même temps, il était pleinement homme. Et il était le serviteur souffrant avant d'être aussi glorifié. Et ça, c'est vraiment à l'inverse de nos pensées. C'est pas ça que vous souhaitez, n'est-ce pas, pour 2018. C'est pas ça que, si je dois être honnête avec moi-même, je souhaite pour 2018. Moi, je veux bien la première partie du verset 17, mais je veux pas trop la deuxième partie. Je la veux pas volontairement, je l'appelle pas. Vous seriez prêts à donner beaucoup pour échapper à nos souffrances. Et quelque part, parfois, ça pose question, pourquoi si nous sommes héritiers avec Christ, fils adoptif de Dieu, pourquoi est-ce que nous devons encore supporter cette vie futile? Et vous savez que Dieu nous appelle à le glorifier, même dans nos faiblesses. Il est glorifié quand nous le plaçons avant tout dans notre vie. Celui qui a cette attitude montre qu'il est véritablement un enfant de Dieu. Il y a des bénédictions qu'on ne peut recevoir que en passant dans des situations difficiles et de souffrance. Il y a des bonnes choses que Dieu veut nous donner, mais on est tellement attaché à notre confort que parfois, seulement les situations de souffrance et de difficulté nous permettent de recevoir ce que Dieu a en réserve pour nous. Et c'est toujours une bonne chose. Et si Paul parle des souffrances, il dit que ce n'est pas sans espérance. D'abord, il dit qu'une chose est sûre, la gloire va être révélée pour nous et en nous. Et donc, il dit, il faut faire un petit peu un bilan. Verset 18, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Il y a un calcul à faire. « J'estime », dit Paul. Il parle de comparaison. Au moment où il écrit ça, Paul a 60 ans. Il a vécu des années exaltantes au service de Dieu, il a vu la progression de l'évangile tout autour du bassin méditerranéen. Il a lui-même contribué à l'annonce de la bonne nouvelle, à l'implantation d'églises de Jérusalem jusqu'en Albanie. Il a mis un point d'honneur à annoncer l'évangile là où cela n'avait pas été encore fait. Et à 60 ans, il ne reste pas encore là, il s'apprête à aller en Espagne. C'est une des raisons pour laquelle il écrit aux chrétiens de Rome, pour solliciter leur aide pour cette nouvelle mission. Mais si vous lisez l'ensemble du Nouveau Testament, vous voyez que ça n'a pas été sans difficulté. Paul a connu la prison, la faim, la soif, le dénuement, les coups, une vie errante, la trahison. Mais sur le soir de sa vie, il fait quand même le compte. Et son verdict, c'est le suivant. Il n'y a pas de commune mesure. C'est incomparable. Les souffrances qu'on peut avoir maintenant et la gloire qui va être révélée en nous et pour nous. Et le poids de la balance, il est du côté de la gloire qui est à venir. Le système antique des valeurs était basé sur le poids. Donc une pièce de métal précieux, si elle était plus épaisse, si on la mettait dans la balance et qu'elle pesait plus, elle valait plus que une autre qui pesait moins. Nos ancêtres auraient été bien étonnés de voir nos petites cartes de crédit toutes légères, flexibles, voilà, tous ces chiffres dématérialisés sur nos écrans internet, peut-être quand on consulte nos comptes, ça veut dire quoi? Les petits bouts de plastique, la dette en milliards d'euros, et pourtant on continue de dépenser quand même ce qu'on n'a pas. Il se dirait, mais vous êtes fous les amis. Ça n'a pas de poids tout ça, c'est du vent. Et donc il nous interpelle sur notre échelle de valeur. Paul veut attirer notre attention sur ce qui compte, sur ce qui a vraiment du poids dans notre vie. Et l'estimation qu'il fait, c'est plus qu'un vague sentiment. Elle est raisonnable. Elle s'appuie sur des promesses de Dieu qui sont vraies. Elle s'appuie sur quelque chose de vraiment solide. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a déjà fait. Dans ce verset, l'apôtre, il fait ressortir la tension entre d'un côté le temps présent et d'un autre côté la gloire à venir. Et on sent bien cette tension. Mais il veut nous porter vers ce qui est à venir. Dans cette vie entre deux, il y a des souffrances. Elles proviennent de la présence du mal qui a fait son entrée dans le monde suite à la chute. Mais le Christ est venu, d'abord comme sauveur de l'humanité. Il reviendra comme Seigneur pour juger et régner et faire entrer avec lui dans la gloire tous ceux qui auront mis leur confiance en lui. Ce ne sont pas nous, les chrétiens, qui faisons advenir la gloire. Elle va être révélée pour nous. C'est Dieu dans sa souveraineté qui va accomplir sa promesse. C'est Dieu dans sa souveraineté qui, en ce moment même, il le faisait déjà en 2017, il va encore faire en 2018, il organise toutes les circonstances personnelles, l'histoire du monde. Il fait aller tout dans un même sens. Révéler la gloire, la liberté, renouveler toute la création pour ses fils et ses filles. Et tout au long de cette histoire-là, nous dépendons donc de la grâce de Dieu, de sa faveur imméritée, du commencement, dans cet entretemps, et quand nous serons pour l'éternité au ciel, tout sera grâce de Dieu. Et Paul dit, nos souffrances en tant que fils ou fille de Dieu par adoption ont un poids éternel. Et peut-être toi tu te poses la question, j'en ai marre et je vois pas le sens de ce que je suis amené à vivre ces derniers temps. Mais tout ça aura un sens bien clair et net dans l'éternité. Et déjà maintenant, il y a un avant-goût qui est donné. Déjà maintenant, nous pouvons comprendre suffisamment de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu. Déjà maintenant, nous pouvons avoir un cadeau précieux, même au travers de toutes ces difficultés, quand nous plaçons Dieu avant tout. Avant notre santé, avant nos biens matériels, nous découvrons son amour incomparable. Si nous avons compris le plan de Dieu, il nous faut faire un petit bilan alors de notre vie, revoir notre échelle de valeur. Pour ce qui concerne Paul, les comptes sont faits. Et pour nous, pour moi, pour vous, de quel côté penche la balance ? J'aimerais encore, avec le texte, vous montrer combien il y a d'encouragement à voir notre vie dans cette perspective plus large de Romains chapitre 8. Il y a trois encouragements encore dans le passage que Paul nous donne, qui nous aident à patienter, qui nous aident à placer toute notre confiance en Jésus. Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui attendent des choses dans ce passage. Il y a la création, verset 19. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et puis au verset 23, c'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Et puis au verset 26, dans la deuxième partie, nous voyons, nous savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Alors, il y a trois encouragements. La liberté que Dieu veut nous faire goûter dès à présent et qui sera entière le jour du retour de Christ. L'adoption, que nous pouvons déjà expérimenter, le fait de pouvoir parler à Dieu comme Père et de l'entendre nous répondre comme des enfants, et le Saint-Esprit. La création dont il est question au verset 19, c'est tout ce qui a été créé, y compris les êtres humains, mais en fait, c'est dans le sens vraiment large. Pourquoi je dis ça? Parce que l'attitude des croyants, en tout cas, est décrite un peu plus loin, de manière spécifique, au verset 23. Donc, il semble qu'il y a, quand Paul parle de création ici, il parle de tout sauf des humains et en particulier des croyants. D'autre part, parce que c'est difficile de retirer la responsabilité de leur rébellion aux humains. La création est marquée et soupire, non de son plein gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Celui qui a soumis la création à cette situation difficile, c'est pas seulement Adam comme chef de l'humanité, même s'il est responsable dans sa décision de se détourner de Dieu et qu'il a entraîné tout le reste de l'humanité avec lui. C'est pas le diable non plus. Parce que si c'était le diable, il y aurait aucune espérance derrière ça. Donc c'est Dieu qui, pour un temps, afflige la création et l'humanité. Mais ce n'est pas sans espérance. Et il est évident que, même si dans sa conscience, chaque être humain sait que cette vie actuelle n'est pas en accord avec celle prévue par le Créateur, on ne peut pas vraiment dire que les non-chrétiens attendent avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Alors, Paul dit que la nature aura part à la liberté qui accompagnera l'établissement final du royaume de Dieu. La création va être affranchie de la corruption, de tout ce qui empêche sa vitalité, son expansion harmonieuse. Et comme pour les humains, ça arrivera au retour de Christ. La création soupire et souffre. On n'a qu'à voir aussi les catastrophes naturelles qui marquent notre monde. C'est comparable aux douleurs d'un accouchement. Alors, il y en a qui sont particulièrement concernés, qui l'ont vécu ou qui vont bientôt le vivre. Et donc, en fait, c'est une belle image parce que ça ne nous parle pas juste d'une attente infinie, juste de souffrance. Mais comme pour un accouchement, c'est en vue de quelque chose, c'est en vue de tenir dans les bras un petit bébé. Et là aussi, Paul nous dit que c'est pas juste une attente que ça se passe, mais un aboutissement. Les douleurs de l'accouchement vont produire quelque chose de merveilleux. Le plan de Dieu, c'est une nouvelle terre et des nouveaux cieux, pas juste un vide. Il y aura vraiment un lieu où habiter, un lieu accueillant où il y aura la vie et où Dieu lui-même sera présent. On sera librement en relation avec Dieu. On sera librement en train de vivre la vie. Plus de menaces, plus de séparation, plus de maladies. Quelle liberté pour apprécier la vie. Est-ce que ça t'encourage? Est-ce que tu es capable de regarder du coup 2017, faire le bilan? Est-ce que tu es capable d'envisager 2018 en ayant en vue cette perspective? Ce n'est pas un rêve, c'est Dieu qui nous annonce cela comme une vérité. La deuxième chose, c'est l'adoption. Verset 23, on voit que particulièrement les chrétiens, ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, désirent aussi cette proximité avec Dieu. Si vous imaginez que la nature désire ardemment voir l'accomplissement du plan de Dieu, là il est question des plans des animaux, si c'est le cas pour la nature, alors à combien plus forte raison c'est le cas pour nous, n'est-ce pas ? Ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. En fait, j'ai l'impression que l'apôtre Paul met un peu les deux situations en parallèle. Ce qui est visible des souffrances de la nature est comme une parabole, une image de ce que nous souffrons en tant qu'êtres humains, et particulièrement en tant que chrétiens. Oui, nous aussi, on soupire. Mais comme dans la nature, nos douleurs ne sont pas une fin en elles-mêmes. La Bible a un message beaucoup plus encourageant. Ces souffrances qui nous font soupirer sont les marques de l'avancement du plan de Dieu dans notre propre vie. Il veut nous former à l'image de son Fils. Puisque nous sommes ses enfants, il veut nous débarrasser de tout ce qui n'est pas à sa gloire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, parfois, Dieu nous donne de vivre des circonstances exaltantes. On est reconnaissant pour tous les bienfaits que Dieu nous donne. Parfois, on reçoit des cadeaux extrêmement précieux, peut-être les plus précieux de notre vie, nous viennent au travers des circonstances difficiles. Ce n'est pas seulement la création qui est en attente, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, dit l'apôtre Paul. Et nous pouvons nous appuyer sur la présence de Dieu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, pour traverser les moments difficiles, comme les joies, pour ne pas nous prendre la tête quand tout va bien, et pour ne pas sombrer dans le désespoir quand les choses deviennent compliquées. Versets 24 à 25, l'apôtre Paul cherche à soutenir le courage, la persévérance des croyants. L'espérance que nous avons, c'est pas peut-être, mais les promesses de Dieu sont certaines et vraies. Et Dieu a comme scellé cela par son esprit dans nos cœurs. Et alors, versets 26 et 27, pour terminer, il dit ceci. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. N'est-ce pas réconfortant de savoir que ce n'est pas juste des concepts qu'on est appelé à vivre seul, mais que nous avons à côté de nous un être, une personne, Dieu le Saint-Esprit, qui vit à nos côtés, qui vit en nous, le plus proche que l'on peut être de nous. Dans le plus sombre des tunnels, on n'est pas seul. Dans la plus grande des joies, on n'est pas tout seul. À chaque fois, on peut partager avec Dieu qui est juste là dans nos cœurs, avec nous. L'Esprit aussi nous vient en aide, particulièrement dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Nous pouvons être sur le point de fléchir, de tomber face aux souffrances qui nous sont encore imposées dans ce monde. Mais l'Esprit de Dieu est celui qui peut et qui veut soutenir notre espérance et notre persévérance. Il désire les mêmes choses que Dieu. Il désire aussi voir l'aboutissement du plan glorieux, bienfaisant de Dieu pour notre vie. Et en nous, il est en train de nous tirer vers ça. C'est ça que Paul est en train d'exprimer. Lui aussi, nous, on ne sait pas quoi demander. On ne sait pas, des fois, dans quelle direction nous tourner dans notre vie. Mais l'Esprit de Dieu, lui, intercède pour nous. Et il nous conduit à voir notre vie selon le plan bienfaisant de Dieu. Et pour moi, et j'espère pour vous aussi, c'est vraiment un encouragement puissant. Au début de cette année 2018, que je ne vais pas être tout seul à affronter les différentes circonstances de cette année. Et le deuxième encouragement avec l'Esprit qui est en nous, c'est que Dieu, verset 27, qui examine les cœurs, il sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Donc non seulement en nous, nous avons un allié puissant qui nous tourne, qui nous aide à tourner les regards vers Dieu, qui nous vient en aide dans notre faiblesse, mais aussi nous avons Dieu qui regarde, qui nous examine à fond, et il voit l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et les deux sont en accord. Et Dieu sait ce qui fait notre vie. Dieu sait quels sont nos combats. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Et Dieu est capable de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Il n'y a pas de problème pour un Dieu qui a tout créé à partir de rien, par sa simple parole, de donner aux uns et aux autres ce que nous avons besoin. Peut-être ce qui peut nous intriguer ou nous questionner, c'est « Mais est-ce qu'il sait ? Est-ce qu'il est au courant ?» Le passage ici nous dit « Dieu sait. Dieu sait. Il examine tout à fond, il sait, et c'est le Dieu qui a tout créé qui est capable de prendre soin, de pourvoir à tous nos besoins. Et s'il l'a fait pour effacer tous nos péchés, s'il a réglé le plus gros problème de l'humanité en Jésus-Christ, la Bible nous dit, alors à combien plus forte raison est-ce qu'il va prendre soin de nous encore aujourd'hui et demain et toute cette semaine, tout 2018, jusque dans la gloire qui a venir. Soyez encouragés, chacun, chacune. Dieu promet la liberté. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient en arrière, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait mal, je ne sais pas qu'est-ce qui te blesse, qu'est-ce qui t'empêche de vivre la vie avec un grand V. Dieu promet la liberté. Dieu promet l'adoption à tous ceux qui viennent à lui. C'est-à-dire, c'est pas libre en dehors de la maison et débrouille-toi. Mais tu peux rentrer dans la maison, tu peux faire partie de la famille de Dieu, être rempli de l'affection, de l'amour de Dieu, recevoir comme un sceau, un avant-goût de tout cela par le Saint-Esprit. Dieu veut être tellement proche de nous qu'il a déversé son esprit dans nos cœurs. Et cet esprit nous tourne les regards vers Dieu pour nous aider à voir les circonstances, la façon dont Dieu les prévoit pour nous, pour notre bien. Et il sait ce qui fait notre quotidien. Et donc, comme il sait, et que l'esprit est en accord avec Dieu, Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Alors, pour 2018, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va vivre demain, on ne sait pas quelles vont être les circonstances. Mais si nous lisons versets 28 jusqu'à 30 maintenant, il y a quelque chose que nous savons. Du reste, c'est un peu comme une sorte de conclusion au passage. Nous savons. Si tu demandes demain qu'est-ce qui va se passer, maintenant tu sais. Nous savons que tout ce que tu vas vivre demain, tout ce que tu vas vivre cet après-midi, tout ce que tu vas vivre en 2018, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Si tu connais Christ, et surtout si Christ te connaît, si tu sais que Dieu te connaît, si tu as en toi, l'Esprit qui crie « Abba Père » et tu entends Dieu te répondre « Oui, mon enfant. » Alors, il n'y a aucun doute que la gloire te sera accordée. Et en attendant que ces trois encouragements, la liberté, l'adoption et la présence du Saint-Esprit soient notre encouragement pour nous tous. Je vais prier pour terminer. Merci Seigneur pour ce passage de ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à avoir la bonne perspective sur notre vie, à utiliser la bonne balance, à pouvoir estimer les choses à leur juste place et leur juste manière. Seigneur, c'est difficile pour nous et nous demandons l'aide de ton esprit que tu as promis dans ce passage même. Dans notre faiblesse, on est parfois submergé par les difficultés. On a du mal à voir comment tu nous fais du bien, même dans des circonstances adverses. Viens à notre secours, s'il te plaît. Seigneur, merci, parce que c'est sûr et certain. Nous ne savons pas quels sont tous les détails de cet après-midi, de demain, de cette année, mais nous savons une chose, tu es pour nous en Jésus-Christ. Tu es en notre faveur, et tu vas faire concourir toutes choses pour notre bien, pour que nous devions de plus en plus tes fils et tes filles, semblables à Christ, celui qui s'est fait notre frère, qui a pris notre condition humaine, qui nous a sauvés de nos péchés par sa mort sur la croix, et qui est maintenant assis à ta droite dans la gloire céleste. Nous savons, Seigneur, que tu conduis toutes choses pour que nous soyons avec lui pour toujours, et nous te remercions pour cela.